France Musique.
Bonjour à tous. Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est l'un des nouveaux noms qui compte dans le monde du théâtre. La metteuse en scène Julie Deliquet réalise un court-métrage pour l'Opéra de Paris autour de la figure de Traviata. Également tout juste nommée directrice du théâtre Gérard Philippe, Centre Dramatique National de Seine-Saint-Denis, Julie Deliquet compte-t-elle sur une réouverture prochaine des lieux de spectacle ? Elle sera notre invitée vers 9h moins le quart. On l'a appris cette nuit face à la crise. Le Metropolitan Opera de New York annonce que sa prochaine saison n'ouvrira que le 31 décembre prochain. Tous les détails dans Classique Info avec Sophie Anastasio. Rendez-vous à 8h40. À Strasbourg, même sans concert, l'ensemble Linéa fait vivre la musique contemporaine. Mais comment ? Réponse avec Suzanne Gervais. Sa chronique, c'est dans 25 minutes. Et puis, c'est l'une des grandes voix de France Musique et de Radio France. Frédéric Lodéon a choisi pour nous ce matin une musique avec l'instrument le plus cher à son cœur. Rendez-vous vers 8h15.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Allez, très bon réveil en musique en ce jour où bien des choses rouvrent. Voici les musiciens du Louvre. Handel pour commencer avec l'ouverture de Jules César en Égypte. C'était les musiciens du Louvre. Dirigé par Marc Minkowski, le Louvre qui ne rouvrira avec son département d'antiquité égyptienne que le 6 juillet. Mais le ministère de la Culture a annoncé que musées et monuments nationaux propriété de l'État pouvaient à nouveau accueillir du public à partir d'aujourd'hui. Alors dans des conditions particulières avec masque obligatoire. Dans la pratique, ce sera en réalité très progressif, notamment malgré tout la réouverture des aujourd'hui de la Monnaie de Paris ou encore toujours dans la capitale du musée Marmottan Monet et son exposition Cézanne et les maîtres. Est-il doux comme un agneau? Il faudrait le demander à ces musiciens. En tout cas, son nom Agnew se prononce Agnew et pas Agnew, A-G-N-E-W. Ne dites pas non plus qu'il est anglais. Ce ténor et chef d'orchestre est écossais, né à Glasgow, voilà 56 ans. Paul Agnew, celui qui est désormais le co-directeur musical des Arts Florissants, aux côtés de son fondateur William Christie, et qui se raconte toute la semaine sur France Musique. Les grands entretiens, c'est au micro de Clément Rochefort, c'est à 22h30. Son éducation musicale à Paul Agnew, il commence au sein du chœur de la cathédrale de Birmingham. Il raconte aussi son audition par William Christie il y a presque 30 ans, sa première fois dirigeant les Arts Florissants. Et son éducation donc musicale. 5 épisodes qui sont aussi à podcaster, bien sûr, si vous profitez ce soir des premières terrasses. Qui sait, Paul Agnew, chef mais aussi chanteur. Alors il a interprété Purcell, Charpentier, Rameau et Beethoven, figurez-vous. Écoutez plutôt, c'est charmant. Je l'avais dit, charmant Beethoven, l'une de ses 25 mélodies irlandaises. What shall I do to show how much I love her? Que dois-je faire pour montrer à quel point je l'aime? Les voix de Paul Agnew et de Peter Harvey, Alessandro Moccia au violon, Alex Verzi au violoncelle et Jérôme Entaille au pianoforte, les grands entretiens de Paul Agnew. C'est toute cette semaine sur France Musique à 10h30, le soir 22h30. Il y en a des trésors qui dorment à la Bibliothèque Nationale de France. Parmi eux, le manuscrit autographe des Scènes de la Forêt de Robert Schumann. La BNF en fait une présentation ce soir. C'est en vidéo, c'est en direct sur la page Facebook de l'institution. La conservatrice du département de la musique, Agnès Simon, va tourner pour nous les pages de ce cycle de 9 pièces pour piano. On y voit les corrections nombreuses du compositeur, des citations poétiques aussi, ensuite supprimées pour l'édition. Rendez-vous donc à 18h sur la page Facebook de la BNF. Scène de la Forêt, Waldseen, qui s'achève sur cet adieu abschied d'une tendresse bouleversante. Abschied, adieu, qui clôt ce cycle de 9 pièces, les scènes de la forêt de Robert Schumann, interprété ici par ce grand pianiste Michel D'Alberto. Il fête aujourd'hui, Michel D'Alberto, ses 65 ans. Bon anniversaire. Voilà presque 30 ans, 28 ans exactement, qu'on n'entend plus l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini de la même façon. L'ouverture de Guillaume Tell, c'est le générique, l'indicatif de Carrefour, de l'Odéon, l'intemporelle émission de Frédéric L'Odéon, désormais tous les dimanches de 14h à 16h. Alors avant de devenir un roi du micro, Frédéric L'Odéon fut un prince du violoncelle, et c'est lui la voix de France Musique ce matin, et c'est son instrument de cœur qu'il a choisi pour vous, pour nous.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité à France Musique. Il y a des œuvres qui ont un destin compliqué, comme le concerto pour violoncelle et orchestre en ré majeur de Joseph Haydn. Il est un peu tombé dans l'oubli, certainement parce que sa grande difficulté a pu effrayer plus d'un violoncelliste. Quand Haydn le compose, il a la chance d'avoir à ses côtés, à la cour du prince Esterhazy, un formidable virtuose, Anton Kraft. Kraft compose lui-même et a certainement donné des conseils à son ami Haydn, ce qui fait que certains ont dit que le concerto en ré majeur n'est pas de Haydn, c'est Kraft qui l'a écrit, il fallait être violoncelliste pour composer des passages aussi difficiles. Oui, mais l'œuvre comporte de telles beautés qu'elle fait tout de même son chemin, notamment à travers un arrangement, ou un dérangement si vous voulez, d'un certain Gewhardt, compositeur, musicologue et directeur du conservatoire de Bruxelles dès 1871. Il a cru bien faire, ce personnage très sûr de lui, en trafiquant le concerto pour le rendre plus romantique, en ajoutant par exemple flûte, clarinette et basson dans l'orchestre. Cette version un peu pâteuse a sévi longtemps, jusqu'à ce que Maurice Gendron, fameux violoncelliste, décide de revenir à un texte plus authentique, s'inspirant d'une édition de 1806. Et comme il a eu raison, en 1953, victoire, on retrouve le manuscrit de Haydn, qui correspond à la version gravée l'année précédente par Maurice Gendron et l'orchestre de la radio de Baden-Baden, dirigé par Hans Rosbaud. Voici le rondo du concerto pour violoncelle de Haydn dans sa version originale. Thank you.
Voilà, Joseph Haydn, le final rondo allegro de son concerto pour violoncelle en ré majeur dans sa version originale, donc, nous disait Frédéric Lodéon, avec Maurice Gendron au violoncelle, l'orchestre de la radio de Baden-Baden, dirigé par Hans Rosbaud, le choix ce matin de Frédéric, qu'on retrouve tous les dimanches à 14h. Merci d'écouter France Musique, il est 8h21.
Bonjour, mon ami, voulez-vous m'embrasser? Monsieur, pardon me, je voudrais vous aimer. Mon cœur, il est fou, and I can't get along without you. Et l'amour, pour toujours, that's for me. I can't wait for the words you will say. Je vois, oh là là, tout ce que vous pensez. Je veux rien que vous. I could spend my whole lifetime with you. Je ferai des folies, but kiss me, chérie. Voulez-vous m'embrasser, monsieur, pardon me. Je ne peux que rêver, je rêve en français. But my heart, il vous aime en anglais. Prenez-moi dans vos bras pour la vie. Bibi, monsieur, je sais pas. C'est vous que j'attends, but you, vous saurez. Me le dire en dansant, je veux rien que vous. I could spend my whole lifetime with you. Je ferai des folies.
Je ferai des folies.
Je ferai des folies.
Je ferai des folies.
Je ferai des folies, but kiss me, chérie.
La voix d'Hazel Scott, simplement Kiss Me, musique de Jean Yatov. C'est un extrait de la bande originale du film Le Désordre de la Nuit de Gilles Grangier, film de 1958, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, film dans lequel la chanteuse américaine d'ailleurs joue un rôle, un polar à l'ancienne avec Jean Gabin, Daniel Dario ou encore Roger Hanin. Si vous ne l'avez jamais vu, ce film, Le Désordre de la Nuit, bien sachez qu'il est diffusé à la télé, la vieille télé, France 3, cet après-midi, 13h55. France Musique. Il est 8h24. C'est affectueux, hein, la vieille télé. Voici Musique Connectée avec Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Alors malgré l'annulation de ses concerts, l'ensemble strasbourgeois Linéa n'est pas resté muet durant ces trois derniers mois. Il a continué à défendre le répertoire qui lui est cher.
J'ai nommé le répertoire contemporain qu'il défend depuis 1998. Et pour ça, l'ensemble Linéa, qui est dirigé par Jean-Philippe Wurtz, n'a pas choisi de poster des concerts à la maison sur Facebook, mais plutôt de proposer une émission aux internautes. Ça s'appelle Open the Box. C'est un projet qui est né de la crise, hein, du confinement pendant lequel musiciens et compositeurs tournaient en rond chez eux, un petit peu comme des lions en cage. L'émission est en direct, elle dure une quarantaine de minutes, sans mauvais jeu de mots. Et Jean-Philippe Wurtz discute avec un compositeur invité de l'une de ses œuvres pendant son exécution par l'ensemble, alors pas en direct pour le coup, hein, ce sont des captations de concerts qui sont utilisées. L'idée, c'est d'ouvrir la boîte à outils du compositeur, de permettre au public d'entrer dans son inspiration, son langage, dans ses techniques. Après tout, compositeurs et compositrices font partie des grands témoins de la crise que nous vivons. J'ai personnellement hâte de voir comment cela va se traduire dans leur prochaine création. Parmi les invités d'Open the Box, il y a eu David Udry, Philippe Manoury, Rebecca Sanders, Philippe Hurel, Raphaël Sindeau. Je ne vais pas tous les citer car il y a déjà eu une vingtaine d'émissions. Certaines prennent d'ailleurs la forme de workshops avec les musiciens de l'ensemble Linéa. Tenez, c'est le cas de celle de demain consacrée à la harpe avec Geneviève Létang qui nous montrera les techniques utilisées à la harpe dans la musique d'aujourd'hui. Elle nous parlera aussi de harpe préparée. Moi, j'ai adoré le Open the Box qui proposait d'écouter autrement le concerto de chambre de Ligeti et celui sur la rencontre avec la corniste australo-sri-lankaise Dipa Gunetileke. J'espère que je n'écorche pas son nom. Les vidéos sont toujours disponibles sur le Facebook de l'ensemble Linéa. Le rythme en ce moment, c'est une émission en direct par semaine, le mercredi à midi jusque fin juin. Et l'émission marche si bien qu'elle sera reprise en septembre avec une nouvelle formule. On s'en réjouit, engageons quand même qu'il y aura un petit peu plus de compositrices invitées. Il reste donc 4 rendez-vous d'ici l'été. Pour les curieux et les harpistes, rendez-vous demain à midi sur la page Facebook de Linéa.
Suzanne Gervais, vous pouvez nous répéter le nom de la corniste australo-sri-lankaise?
Vous êtes sadique. Dipa Gunetileke.
Bravo. Musique connectée à retrouver sur francemusique.fr. À demain, Suzanne.
À demain.
L'ensemble Linéa, il joue ici pendant 90 secondes la musique d'Aurélien Dumont. Tiens, à votre avis, comme on aime bien jouer, en temps habituel en tout cas, combien y a-t-il d'instruments ici? Start the dance pour flûte et trio à cordes, donc 4 instruments, il n'y avait rien à gagner, c'était juste pour vous. Musique d'Aurélien Dumont et c'était l'ensemble Linéa.
Musique matin, Jean-Baptiste Urbain.
Ces adaptations de films pour les planches de la Comédie française ont connu de grands succès. La metteuse en scène Julie Deliquet réalise cette fois un court-métrage, c'est pour l'Opéra de Paris, autour de la figure de la Traviata, ça s'appelle Violetta. Où a-t-elle puisé son inspiration, celle qui vient par ailleurs d'être nommée directrice du théâtre Gérard Philippe, Centre Dramatique National de Saint-Denis, sera notre invitée à 9h moins le quart. Violon et violoncelle font-ils bon ménage en concerto? Pour Vivaldi, oui. Giuliano Carmignola et Mario Brunello en donnent la preuve sur leur nouveau disque. On l'écoutera dans une dizaine de minutes. Et puis, juste avant, au programme de Classique Info, on l'a appris cette nuit, le Metropolitan Opera a décidé de n'ouvrir la saison prochaine que le 31 décembre prochain. Tous les détails dans quelques minutes. Pour l'air France Musique, il est presque 8h30. L'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Circuler à plus de 100 km de chez soi en toute liberté, piquer une tête dans une piscine, déjeuner dans une salle de restaurant avec une petite dizaine d'amis, ou s'installer en terrasse pour un verre, un dîner si l'on vit en Île-de-France, à Mayotte ou en Guyane, tout cela est désormais possible à partir d'aujourd'hui. C'est la phase 2 du déconfinement promise par les autorités, alors que partout sur le territoire, le nombre de patients dans les services de réanimation continue de diminuer jour après jour. Si la situation sanitaire s'améliore, les professionnels de santé ne veulent pas qu'on les oublie, d'où ces mardis de la colère organisés par la CGT avec des manifestations partout en France. Les personnels des hôpitaux espèrent que l'exécutif tiendra les promesses faites pendant la crise et que le Ségur de la santé, lancé la semaine dernière et piloté par Nicole Notta, débouchera bien sur des mesures concrètes et conséquentes. Tarache Léguel.
Premier syndicat dans les hôpitaux, la CGT affirme que le Ségur est mal parti. Son délégué, Christophe Prudhomme.
Il y a eu simplement le grand show de lundi dernier avec 300 participants. Le lendemain, deux réunions où aucune proposition concrète, chiffrée, n'a été faite et la prochaine réunion a lieu le 5.
Pour l'instant, aucune revendication portée par les collectifs et les syndicats n'a été entendue.
Sur les salaires, ils ne parlent que des infirmières, alors que l'hôpital, ce sont 140 métiers. Et en ce qui concerne les restructurations, les fermetures de lits, elles se poursuivent. Vous voyez, dans mon département, il y a un hôpital que le directeur général de l'assistance publique, Martin Hirsch, veut fermer. Eh bien, le déménagement d'un service va se faire dans les jours qui viennent.
Il s'agit de l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. Un peu partout, donc, les mardis de la colère s'organisent avec leurs manifestations, pas toujours dans de bonnes conditions.
Vous savez ce que la direction de l'hôpital a fait dans mon hôpital ? Lors du dernier rassemblement, il a envoyé un huissier pour noter les noms des gens présents. Voilà les relations sociales que l'on a dans nos hôpitaux, sur ordre du gouvernement. Hein, faut pas nous dire qu'un directeur d'hôpital, c'est un fonctionnaire. Donc s'il prend ce type de mesure, c'est qu'il est couvert et qu'il a eu des consignes, il a eu des ordres.
La colère est donc encore très vive, assure l'urgentiste Christophe Prudhomme, alors que l'heure devrait être au dialogue social.
Fer de lance de la contestation pendant des mois, le collectif Interurgence appelle de son côté à une grande journée d'action. Ce sera le 16 juin prochain. Le collectif invite les citoyens qui ont applaudi tous les soirs à rejoindre le mouvement pour faire pression sur le gouvernement. Un gouvernement qui encourage les Français à télécharger l'application Stop Covid sur leur téléphone portable. Très décrié, on le sait, par l'opposition, cet outil numérique sera disponible d'ici quelques heures via les boutiques en ligne d'Apple et de Google. Un tsunami économique avec des conséquences sociales catastrophiques. Voilà ce que redoute le maire UDI de Maubeuge. L'élu a rendez-vous aujourd'hui à Bercy avec le patron du groupe Renault et les syndicats. Si le PDG du constructeur automobile français a promis de ne pas fermer le site industriel, une partie de sa production pourrait être délocalisée, entraînant sur place une réduction importante des effectifs. Plus que quelques heures pour négocier des accords en vue du second tour des municipales prévues le 28 juin prochain. Les listes doivent être déposées en préfecture d'ici ce soir. La reprise d'un procès emblématique, celui du scandale sanitaire du Mediator, avec des audiences très encadrées devant le tribunal correctionnel de Paris. 25 personnes sont poursuivies pour tromperie aggravée, escroquerie et homicide involontaire. Une mort par asphyxie, c'est la conclusion du médecin légiste qui a autopsié George Floyd, tué par la police la semaine dernière dans le Minnesota. Aux États-Unis, les manifestants qui se rassemblent un peu partout dans le pays pour protester contre cette violence des forces de l'ordre contre la communauté noire ont aujourd'hui face à eux un président qui s'obstine à dénoncer des actions terroristes. Donald Trump qui promet de ramener le calme, quitte à déployer l'armée. Il l'a annoncé hier soir depuis la Maison Blanche. À Washington, c'est un reportage de Grégory Phillips.
La Maison Blanche annonce une déclaration officielle du président. Et quasi simultanément, la police disperse à grands coups de gaz lacrymogène les centaines de manifestants qui pacifiquement protestaient devant le bâtiment présidentiel. Panique dans la foule, en quelques minutes, les abords du Square Lafayette sont vidés et Trump débute son intervention depuis la roseraie à l'entrée du bureau ovale.
I am your president of law and order.
Au loin, on entend retentir les grenades des forces de l'ordre. Puis le président quitte la Maison Blanche à pied, ce qu'il ne fait jamais, entouré par ses gardes du corps pour traverser ce Square Lafayette et marcher jusqu'à l'église Saint-John, à quelques dizaines de mètres. La veille au soir, des casseurs ont tenté d'incendier l'édifice religieux, surnommé l'église des présidents, tant elle est proche du 1600 Pennsylvania Avenue. Là, Donald Trump prend une Bible à la main et l'attend aux caméras, l'air triomphal. La scène est diffusée en direct sur les chaînes d'information. Mais l'évêque du diocèse de Washington, Marianne Budd, n'a pas été prévenue de l'opération de com' du président. Je suis furieuse, dit-elle sur CNN, et je me demande bien à quoi l'on vient d'assister. Trump repart, le message est clair, il veut être le président de la loi, de l'ordre et de la Bible.
Beaucoup de soleil sur la moitié nord de la France. Sur le sud, en revanche, les nuages seront bien présents. Il y aura des averses et des orages sur les reliefs. Les températures de 9 à 18 degrés ce matin, de 24 à 29 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. À demain, Olivier. Après plus de 2 mois sans jouer et pour respecter les gestes barrières, l'orchestre philharmonique de Zagreb a cherché un endroit en plein air pour jouer. Où donc? Eh bien, le premier concert de l'Orchestre Philharmonique de Zagreb a eu lieu au zoo, le zoo de Zagreb. Alors, pas de carnaval des animaux au programme, non, non, ils ont choisi d'interpréter Bizet, Mozart, quelques chansons des Beatles, c'est une valse de Tchaïkovski. L'histoire ne dit pas si les hippopotames se sont mis à danser comme dans Fantasia. La valse de la sérénade pour cordes de Tchaïkovski, extrait du dernier disque de l'Orchestre Philharmonique de Zagreb, dirigé ici par Dimitri Kitayenko, orchestre qui a donné donc son premier concert de déconfinement au Zoo. France Musique, il est 8h40, c'est l'heure de Classique Info. Avec Sofia Anastasio, bonjour Sofia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec le Metropolitan Opera de New York. Il tire un trait sur l'année 2020.
L'institution lyrique a annoncé hier qu'elle annulait sa saison d'automne et ne reprendrait ses activités qu'à partir du 31 décembre. En cause de la pandémie, l'énorme complexité organisationnelle du Met, indique son directeur. La production d'Aïda, qui devait ouvrir la saison le 21 septembre prochain, est donc annulée. Un communiqué indique qu'après la réouverture, certaines représentations pourraient être raccourcies. Et si la Flûte enchantée et Don Giovanni seront bien joué, ce sera dans des mises en scène déjà présentées. De nouvelles productions étaient pourtant attendues.
Et on reste aux États-Unis où le Met, justement, apporte son soutien au mouvement de protestation qui a éclaté après la mort de George Floyd.
Le Metropolitan Opera ainsi que plusieurs maisons lyriques et orchestres comme le LA Philharmonic, l'Orchestre Philharmonique de New York, l'American Guild ou encore l'Orchestre de Philadelphie ont partagé des messages de soutien au mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent. Il n'y a pas de place pour le racisme dans les arts, à New York et dans le monde, écrit le Met. Un message qui a suscité beaucoup de réactions sur Twitter avec des internautes qui incitent l'institution à programmer, dans ce cas, plus de compositeurs noirs et à retirer de son site la rediffusion du Naïda qui présente un recours au blackface.
Et aujourd'hui, l'industrie musicale observe une journée blackout, un mardi noir, pour manifester contre le racisme et contre les violences policières.
Warner, Universal, Sony, mais aussi le Carnegie Hall seront à l'arrêt aujourd'hui pour, je cite, « observer, prendre contact et s'organiser ». Plusieurs artistes ont rejoint le mouvement, parmi lesquels Quincy Jones, qui écrit « C'est difficile de trouver les mots parce que j'ai fait face au racisme toute ma vie ». Par ailleurs, au Texas, l'Orchestre Symphonique d'Austin a licencié son premier trombone, Brenda Sensing Salas, qui a partagé des messages racistes sur Facebook en réponse aux manifestations. L'orchestre a également présenté dans la foulée ses excuses au public.
Et puis, autre actualité musicale, Sofia, Dominique Pitoiset a été nommé directeur de l'Opéra de Dijon.
Un retour en France, c'est au cours d'un conseil municipal à l'ambiance assez tendue le 28 mai dernier, écrit au Lyrics, que le maire sortant, François Rebsamen, a fait voter la nomination du comédien metteur en scène Dominique Pitoiset, qui succède ainsi à Laurent Joyeux. Plusieurs artistes et personnalités s'étaient inquiétés ces dernières semaines de l'absence de direction nommée à la tête de l'institution, en apportant également leur soutien à Laurent Joyeux, qu'ils souhaitaient voir rester.
Classique Info, Sophie Anastasio, c'est aussi sur francemusique.fr, direction la rubrique Actualité Musicale. À demain, Sophia.
À demain.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Ce sont deux compagnons, longs compagnons de route qui se retrouvent sur notre disque du jour, le violoniste Giuliano Carminola et le violoncelliste Mario Brunello, avec l'Accademia dell'Annunziata, dirigée par Riccardo Doni. Sur cet enregistrement qui vient de paraître chez Arcana, les deux musiciens italiens enregistrent pour leurs deux instruments à cordes des concertos de Bach et Vivaldi. Vivaldi a écrit de nombreux concertos pour deux violons, mais les transcriptions à l'époque n'étaient pas rares. Ici, c'est un violoncelle piccolo sur lequel joue Mario Brunello, piccolo car légèrement plus petit que le violoncelle traditionnel. Le violon et le violoncelle séparés d'une octave sont réunis ici et dialoguent dans une simplicité, une grande liberté aussi, tout en s'amusant entre eux, comme deux frères presque. En voici un exemple.
Thank you.
Vivaldi, le final de ce concerto en mi bémol majeur, ici pour violon et violoncelle piccolo, Giuliano Carminola au violon, Mario Brunello au violoncelle piccolo, l'Accademia dell'Annunziata dirigée par Riccardo Doni, France Musique. 8h47, l'heure de rejoindre notre invité.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre invité ce matin en ligne est la metteuse en scène Julie Deliquet. Bonjour.
Bonjour.
Après des adaptations très remarquées et très réussies, adaptation théâtrale à la Comédie Française de deux films, Fanny Alexandre d'Igmar Bergman et Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, parmi bien d'autres mises en scène, vous passez là, derrière la caméra cette fois, le temps d'un court-métrage pour la première scène, la troisième scène plutôt de l'Opéra de Paris. Le film s'appelle Violetta. D'abord, Julie Deliquet, juste avant le confinement, vous avez été nommée par le ministre de la Culture, Franck Riester, directrice du Théâtre Gérard Philippe, Centre Dramatique National de Saint-Denis. Aujourd'hui, 2 juin, en France, il y a beaucoup de réouvertures et notamment, en théorie, en zone verte, la réouverture des salles de concert et les théâtres. Vous, est-ce que vous savez quand le théâtre Gérard Philippe va pouvoir rouvrir ?
Effectivement, nous ne sommes pas encore en zone verte. Après, tout amène à penser que les choses vont dans le bon sens et qu'on travaille pour une réouverture à la rentrée, dès début septembre. Avec un réaccueil au sein du théâtre, des équipes artistiques en répétition dès cette semaine.
Et dans quelles circonstances cette réouverture, siège espacé, porte du masque, vous pensez qu'on peut se produire, contrairement à d'autres artistes, qu'on peut se produire dans ces conditions ?
Alors d'abord, septembre, c'est encore loin. Et c'est vrai que les annonces du ministre de jeudi, je pense qu'il y a une semaine, on se projetait pas encore dans un futur aussi proche. Donc les choses peuvent encore évoluer, peuvent changer dans un bon sens comme dans un mauvais. On est plutôt à travailler sur un scénario de gestes barrières à opérer avec une distanciation physique à mettre en place. Un siège sur 2, c'est vrai que ce serait, on va dire, plus confortable qu'un siège sur 3. Après, à partir du moment où on prend les transports en commun avec des masques, qu'on travaille avec des masques, que nos enfants ou nos adolescents vont retourner dans les établissements scolaires d'ici peu avec des masques, je vois pas pourquoi ça nous poserait plus de problèmes d'aller au théâtre avec ces gestes-là qui seront devenus des gestes du quotidien. Donc je pense que c'est important que la culture, que nos établissements s'inscrivent dans ce mouvement social et sociétal et qu'on reprenne notre travail et notre rôle à jouer et notre place avec nos métiers.
Julie Deliquet, pour finir sur cette question, vous avez parlé d'urgence culturelle, qui plus est en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que vous dirigez le Théâtre Gérard Philippe, Centre Dramatique National de Saint-Denis. Urgence culturelle, c'est-à-dire ?
Je pense que cette crise aussi, elle a creusé les inégalités à beaucoup d'endroits, sur des endroits vitaux. Évidemment que la culture n'est pas un endroit vital, mais elle est tout aussi importante. Et les inégalités d'accès aussi à la culture, au divertissement, ont été grands. Et je pense que, et notamment le lien qu'on a à retrouver avec l'éducation nationale et les sorties scolaires va être important. Après, c'est des choses qui ne sont pas simples à mettre en place parce que déjà que le retour à l'école n'est pas acté, que la rentrée en septembre pose aussi beaucoup d'incertitudes. Il va falloir, nous, qu'on accompagne au mieux les professeurs pour que ces sorties puissent être repensées et qu'elles puissent aussi rejouer leur rôle auprès des enfants et des adolescents.
À suivre, donc, et c'est, comme vous le disiez, ça évolue très vite. Alors, vous venez de réaliser un film, c'est un court-métrage, Violetta, pour l'Opéra de Paris, pour la troisième scène, un très beau court-métrage de 18 minutes qui croise une chanteuse, célèbre chanteuse Alexandra Courjac, vous la suivez à l'Opéra Bastille avant et pendant une représentation de la Traviata de Verdi. Et puis, en parallèle, une femme à l'hôpital qui vient faire une séance de chimiothérapie, qui essaie des perruques. Faut pas trop en dire, je trouve, c'est un très beau film. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi d'abord vous avez dit oui à l'Opéra de Paris ?
J'ai dit oui parce que c'est vrai que c'est une vraie provocation quand on est appelé à la troisième scène et qu'on n'est pas réalisateur. Donc c'est un vrai terrain de jeu, je trouve, qu'on nous propose comme une carte blanche, un labo avec un nouveau support. Et du coup, quand on ne vient pas du cinéma, on doit vraiment se poser la question en permanence, mais si je change mon outil de représentation et que je le passe à travers la caméra, qu'est-ce que je vais en faire? Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement stimulant et qu'en ça, la troisième scène est une proposition magnifique. Plus l'opéra, parce que l'opéra, moi, j'ai pas signé de mise en scène d'opéra, donc même si évidemment qu'il y a une proximité énorme avec mon travail et que j'ai sans doute une proximité aussi plus évidente qu'un réalisateur qui n'aurait jamais fait de théâtre, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce que je fais que de ces deux outils, c'est-à-dire la provocation, d'une part, intégrer la notion d'opéra, et puis passer derrière la caméra. Et à partir de là, commence à se faire un trajet qui va vers l'élaboration d'un scénario qui passe entre un aller-retour, entre la musique qui nous guide, les œuvres qui nous sont présentées, les lieux, parce que tout de suite, on nous fait visiter l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, et puis et les obsessions, je pense, qu'on porte en tant qu'artiste et qu'on va exprimer sous un autre support.
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous interrogez aussi le rapport entre la réalité et la fiction. Vous venez de nous dire, j'ai pas signé de mise en scène d'opéra, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter?
Oui, on m'en a d'ailleurs proposé. Pour l'instant, j'ai pas une grande culture, on va dire, musicale dans ce genre-là, donc j'ai été un peu un peu inhibée quant au passage, on va dire, à la mise en scène d'opéra, mais je pense que c'était aussi pour moi un pas vers l'opéra en réalisant ce film, puisque j'ai fait des études de cinéma très modestes au lycée et puis un petit peu à la fac. Donc c'était un peu renoué avec cette première formation qui a tant compté pour moi et je pense tant influencé mon regard de spectatrice mais aussi d'artiste. Et donc c'est, je pense, aussi un pas vers une future collaboration et une future mise en scène à l'opéra.
À suivre, donc, Violetta, un très beau court-métrage à voir gratuitement, là, dès maintenant, sur le site de l'Opéra de Paris. C'est la troisième scène, avec aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, un hommage aux soignants. En tout cas, on voit des soignantes avec beaucoup de douceur. Et Alexandra Koujak, elle vient de sortir un disque, Desire, c'est son titre. On va en écouter un extrait. Merci beaucoup, Julie Deliquet. Ce disque...
Merci à vous.
Merci. Ce disque d'Alexandra Koujak, ce sont des airs issus de certains de ses rôles et qui montrent toute l'étendue de sa voix. Alors, il n'y a pas la Traviata, mais on trouve cet air de Verdi d'Elena dans les Vêpres siciliennes. Verdiener des Vêpres Siciliennes, c'était Alexandra Koujak et le Morphing Vienna Chamber Orchestra dirigé par Frédéric Chasselin, le tout nouveau disque de la soprane. Demain, notre invité sera le directeur artistique du Festival International de Piano de la Roque d'Oteron, René Martin. Au générique, Alex Billard, Emmanuel Dupuis, Yacine Bouzard, Marion Guillemette, Aïssia Froidure et Margot Muller. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier, bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez pris un café en terrasse?
Vous, apparemment.
Plus d'un.
Vous êtes très en forme.
Ça s'entend. On va ouvrir l'émission avec les concertos pour piano de Beethoven par un pianiste, Inan Barnatan. Vous allez entendre, c'est un très beau disque.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.